Nous allons à présent refaire une expérience de mixage avec une pensée plus complexe afin d'observer les effets du mixage sur la mémoire. Pour cela, vous allez choisir un souvenir de vacances. Choisissez un souvenir agréable, qu'il soit récent ou ancien. Vous commencerez à vous remémorer ce souvenir dès le début de la fixation et vous continuerez à y penser pendant la présence du phosphène. Observez bien l'évolution spontanée de ce souvenir. N'oubliez pas qu'il suffit simplement de laisser venir à soi une ou plusieurs idées, même si au début elles sont imprécises. Ne cherchez surtout pas à les contrôler, mais acceptez celles qui viennent spontanément à la conscience. Pour effectuer ce mixage, choisissez un souvenir de vacances. Placez le bandeau sur votre front. Allumez la lampe. Pensez à ce souvenir. Éteignez votre lampe. Mettez votre bandeau. Continuez à penser à ce souvenir en présence du phosphène. Observez bien l'évolution de la pensée, sa netteté, ses détails. Arrêtez maintenant votre magnétophone pour faire cette expérience.
Comment avez-vous trouvé la qualité de ce souvenir? Un grand nombre de personnes nous ont fait remarquer que les souvenirs qui reviennent spontanément et le plus nettement lors du mixage sont des souvenirs de périodes ensoleillées. Cela a-t-il été le cas pour vous? Vous avez très certainement eu l'impression de revivre une deuxième fois ce souvenir de vacances, car l'intensité de la pensée est en général telle que de très nombreux détails, voire même des sensations, comme des odeurs, des sensations tactiles ont pu ressurgir avec une netteté et une précision inhabituelles, qui ont certainement dû vous surprendre. Il vous est probablement déjà arrivé d'évoquer vos vacances, mais vous pouvez constater qu'avec le phosphène, le souvenir est bien plus riche et que l'on découvre en soi un véritable trésor intérieur. Il est fréquent que des détails auxquels on n'avait pas fait attention sur le moment reviennent lorsque l'on repense à une situation pendant la présence du phosphène. De même, des éléments complètement oubliés peuvent ressurgir, à notre très grande surprise. En outre, ce n'est pas seulement le souvenir choisi qui revient très présent et très vivant, mais aussi tout un défilé de souvenirs qui viennent s'enrichir les uns les autres. Ainsi, vous pouvez facilement vérifier que le phosphène possède une fabuleuse action sur l'évocation des souvenirs et leurs associations. Et l'on comprend que l'ensemble des capacités mentales soit stimulé en profondeur si l'on étudie sous phosphène, ce qui facilite considérablement l'apprentissage et rend l'étude particulièrement efficace. Vous pouvez par le mixage suivre le fil conducteur de vos souvenirs. Le phosphène n'est pas le seul élément dans lequel on puisse pratiquer le mixage. Il existe en effet des équivalents du phosphène au niveau de tous les autres sens physiques, mais qui sont moins évidents à percevoir que le phosphène, bien qu'il possède les mêmes propriétés de densification de la pensée. Nous pouvons, par exemple, travailler avec l'acouphène, l'équivalent auditif du phosphène. C'est un phénomène que chacun connaît bien sous la forme des sifflements ou bourdonnements d'oreilles qui accompagnent certains malaises. Ce sont ce qu'on appelle alors des acouphènes pathologiques. Mais l'acouphène est un phénomène tout à fait naturel auquel, habituellement, on ne fait pas attention, bien qu'il soit constant et que l'on puisse facilement le percevoir. C'est ce son que l'on fait entendre aux enfants en leur mettant un coquillage à l'oreille pour leur faire croire qu'ils entendent le bruit de la mer. Ce qu'ils entendent est en fait l'acouphène physiologique amplifié par le coquillage qui sert de caisse de résonance. L'acouphène est ce bruit rythmé, très riche et très agréable, qui rappelle le flux et le reflux de la mer. C'est le bruit du sang qui circule dans la boîte crânienne. Les enfants aiment se laisser porter par l'audition de ce son. Ils le font en se bouchant les oreilles et laissent leurs pensées vagabonder. Beaucoup d'enfants et d'étudiants profitent spontanément de ce son pour apprendre leurs leçons et réfléchir. En général, ils ont remarqué très tôt que ce son les aide à avoir une pensée plus présente et plus précise, ce qui leur permet d'apprendre plus vite et mieux et d'avoir davantage d'idées nouvelles. Ils se servent donc de l'acouphène sans le savoir, alors que leur entourage croit qu'en se bouchant les oreilles, ils s'isolent simplement des bruits extérieurs. Lorsque l'on explique ce qu'est l'acouphène, beaucoup d'adultes se souviennent que c'est ainsi qu'ils lisaient ou apprenaient leurs cours, et qu'à l'époque où ils étudiaient de cette façon, ils avaient une très grande mémoire et une très grande capacité d'apprentissage.
Comment prendre conscience de l'acouphène? L'acouphène n'est pas difficile à percevoir. Il suffit de se boucher les oreilles en appuyant avec les pouces sur les tragus, les petits cartilages qui sont près du conduit auditif, ou encore de boucher ces conduits avec les index, ce qui permet de mieux entendre l'acouphène. Pour faciliter la position, vous pouvez, bien sûr, vous accouder sur une table et même placer des livres sous les coudes, de façon à redresser la tête, ce qui rend la position plus agréable et améliore l'irrigation du cerveau. Si vous vous bouchez les oreilles en appuyant sur les tragus avec les pouces, les autres doigts viendront au niveau du front pour soutenir la tête. Si vous les bouchez avec les index, ce seront les poings qui maintiendront votre tête. Ensuite, vous observerez simplement le bruit intérieur. Vous observerez ainsi l'acouphène dans une position confortable, sans faire aucun effort mental particulier, en acceptant les pensées qui viendront spontanément à l'esprit. Vous reporterez votre attention sur les nuances de ce son, son intensité, en vous laissant porter comme on se laisse aller à l'audition d'une musique. Faites cette expérience de l'acouphène pendant quelques minutes. Arrêtez maintenant votre magnétophone pour faire cette expérience.
Vous avez pu vous rendre compte que l'acouphène est perçu sous la forme d'un bourdonnement qui donne parfois l'impression d'un ronflement de moteur ou du courant d'un fleuve. Ce bruit grave est accompagné de diverses vibrations qui viennent du corps, comme les battements du cœur, les tremblements musculaires et les pressions des doigts sur les conduits auditifs. Vous aurez pu observer que l'on perçoit l'acouphène des deux côtés et qu'il peut y avoir une différence d'intensité d'une oreille à l'autre. On perçoit également, fréquemment, un chuintement ou un sifflement aigu. Ici, seul le bourdonnement nous intéresse. C'est en effet dans ce bourdonnement que nous allons pratiquer le prochain mixage. Pour cela, vous allez à nouveau prendre un souvenir et vous allez y penser tout en écoutant l'acouphène. Là encore, vous laisserez la pensée s'organiser spontanément et vous accepterez ce qui s'imposera à votre conscience, idée, réflexion ou image mentale. Faites maintenant ce mixage dans l'acouphène.
On retrouve dans la pratique du mixage dans l'acouphène le même processus d'intensification de la pensée qu'avec le mixage dans le phosphène. L'acouphène est donc particulièrement utile lorsque l'on étudie dans un lieu où l'on n'a pas la possibilité de faire des phosphènes. Si l'on est en déplacement, par exemple, ou pour les personnes qui ont un problème aux yeux, et ne peuvent fixer une lampe. Tous les exercices que nous associons au phosphène peuvent être effectués avec l'acouphène. Il est également possible d'associer à la fois phosphène et acouphène, ce qui augmente d'autant les échanges d'énergie dans la pensée. Nous venons d'étudier le principe du mixage et ses effets sur l'attention et la mémoire. Dans le cadre de vos études, il vous suffit à présent de fixer la lampe de temps en temps, pendant que vous lisez ou apprenez. De cette façon, vous faites du mixage tout en travaillant, sans vous préoccuper du phosphène. Vous ne perdez donc pas de temps. Vous pouvez, si vous le souhaitez, travailler ainsi quelques jours, avant de passer à la leçon suivante. Cependant, n'hésitez pas à réécouter cette leçon sur le mixage et refaites les observations pour apprendre à observer les processus mentaux. Cela vous aidera à mieux vous connaître et à bénéficier d'une capacité de mémorisation et d'assimilation accrue, sans effort, en toutes circonstances. Fin de la deuxième étape.
Comment lire sous phosphène? Vous avez à présent l'habitude du mixage pendant l'étude. Vous avez pu voir que cela ne nécessite aucun effort supplémentaire. Vous tenez comme à l'accoutumée. L'étude se trouve facilitée par la présence du phosphène. Il permet de réaliser un travail efficace, comme vous avez certainement pu vous en rendre compte si vous avez travaillé quelques jours avec le mixage. Dans cette leçon, nous allons pousser un peu plus loin l'utilisation du mixage pour rendre l'étude encore plus performante. Vous avez déjà pu vérifier certains effets du phosphène sur la pensée. Quand la pensée devient plus présente, plus précise et plus détaillée, c'est l'attention et l'idéation qui sont fortifiées. Nous allons pouvoir directement utiliser les phosphènes dans les applications pédagogiques. Vous gagnerez ainsi du temps sur vos études tout en vous servant des phosphènes. Nous allons appliquer une forme de travail qui va vous permettre d'améliorer plus particulièrement votre attention et par conséquent votre capacité d'assimilation. Il existe une variété de phosphènes que l'on obtient par la réflexion d'une source lumineuse sur une surface brillante. Ces phosphènes ont une très grande action structurante sur le système nerveux. Vous en avez peut-être fait vous-même sans le savoir, lorsque vous étiez au bord de la mer, près d'un lac ou sur une rivière, et que vous regardiez l'eau en vous laissant aller à vos pensées. Vous avez certainement remarqué que l'on se sent parfaitement calme et détendu. C'est ce qu'observent aussi tous les pêcheurs à la ligne. Ils sont en effet capables de rester des heures entières devant leur ligne, à observer le bouchon et à attendre une prise. Tous affirment qu'ils ressentent un calme et une paix qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Or, en restant des heures près de l'eau, ils ne peuvent manquer de faire des phosphènes par réflexion du ciel lumineux ou du soleil sur l'eau. Les personnes qui sont habituellement hyper nerveuses ou hyper tendues trouvent sur leur lieu de pêche un état de détente physique très profond et un formidable calme intérieur.
Cette action de la lumière sur le système nerveux est d'ailleurs maintenant utilisée dans certains hôpitaux dans le but d'aider les personnes atteintes de troubles du sommeil et souffrant de dépression à retrouver leur équilibre. Elles sont en effet soumises à des bains de lumière d'une intensité d'au moins 500 watts durant 1 heure le matin et 1 heure le soir. Les enfants aiment rêvasser ou répéter leurs leçons en fixant le ciel lumineux. La luminosité du ciel est due à la réflexion de la lumière solaire sur les couches de l'atmosphère. Les phosphènes ainsi obtenus procurent un état de détente physique et une stimulation mentale qui leur permet d'être beaucoup plus efficaces dans toute forme de travail intellectuel. Les enfants qui ont commencé à travailler de cette façon dès le plus jeune âge rentrent dans une catégorie d'enfants particulièrement doués. Les psychologues ne savent pas expliquer comment ces enfants ont pu développer de si grandes capacités mentales. Mais grâce aux travaux du docteur Lefebure, nous savons à présent comment utiliser efficacement tous les avantages de la lumière pour développer les capacités intellectuelles. Certains enfants utilisent d'instinct l'effet de la lumière réfléchie, en étudiant face à un mur blanc, car ils se rendent compte qu'ils apprennent bien plus rapidement que d'habitude, et que leur créativité est extraordinairement stimulée. Beaucoup aussi fixent les reflets de la peinture brillante de leur mur ou les reflets du parquet ciré. D'autres encore, lorsqu'ils lisent, se placent de manière à ce que le soleil éclaire vivement le texte sans avoir le soleil dans les yeux. Ils se tournent donc de trois quarts par rapport au soleil. Il est donc possible de reporter directement ce principe dans l'étude. Il est déjà bien connu que l'on étudie et retient mieux lorsque la pièce est bien éclairée ou très ensoleillée. Nous allons donc passer à l'étude de la lecture sous phosphène.
La lecture sous phosphène apporte beaucoup du point de vue de l'attention et de l'assimilation. Le mode de lecture le plus simple consiste à éclairer le texte avec, par exemple, une lampe de bureau. Le simple éclairage du texte suffit à produire des phosphènes. En effet, la lumière est réfléchie sur les pages du livre ou du cahier. On obtient donc ainsi une autre variété de phosphènes qui sont entretenus en permanence du fait de l'éclairage continu. Cette catégorie de phosphènes est particulièrement intéressante car elle renforce l'attention et a une action directe sur la compréhension. Faites-en l'essai de la façon suivante. Installez une lampe de bureau sur votre table de travail, de façon à ce que les documents sur lesquels vous travaillez soient parfaitement éclairés. Pour la disposition de la lampe, faites en sorte de ne pas voir l'ampoule lorsque vous lisez votre texte, afin de ne pas être gêné pendant la lecture. Il suffit de rabattre légèrement le réflecteur pour ne pas voir l'ampoule. Ce qui est important dans ce mode de travail, c'est que la lumière ne doit pas frapper directement vos yeux. Elle doit être bien dirigée et concentrée sur les lignes que vous étudiez. Cette luminosité sur le texte provoquera automatiquement un phosphène par réflexion de la lumière sur les pages du livre ou du cahier. Ainsi, pendant toute votre étude, vous aurez un phosphène permanent, même si vous ne percevez aucune tache de couleur, car cette catégorie de phosphène est différente des précédents. Lisez ensuite comme à l'accoutumée. Au bout d'environ un quart d'heure, vous vous rendrez compte que vous percevez mieux les idées du texte et que vous en comprenez mieux les nuances. Aussi curieux que cela puisse paraître, le texte prend une plus grande intensité. Vous sentirez aussi que votre attention est mieux soutenue que d'habitude et que les idées du texte restent bien mieux en mémoire. Elles paraissent plus claires. Il se produit ici le même phénomène que pour les pêcheurs qui, eux, fixent les reflets du soleil ou du ciel lumineux sur l'eau. Les phosphènes ainsi produits agissent directement sur le système nerveux, d'où la détente physique et le calme que l'on en ressent. Ce calme et cette détente augmentent considérablement l'attention. Cette action est si forte que, si l'on est fatigué, on pourra avoir tendance à s'endormir, car les phosphènes aident à récupérer. Si cela arrive pendant la lecture, il ne faut surtout pas aller contre cette petite somnolence. Il vaut mieux se laisser aller à cet assoupissement, car non seulement cela aide à récupérer, mais après quelques minutes, on a la surprise de se réveiller reposé et d'avoir l'esprit plus clair que d'habitude. On peut alors continuer à lire son texte.
Faites-en maintenant l'expérience sur un livre ou un cours que vous devez étudier ou apprendre. Pour bien prendre conscience de la présence du phosphène, bien qu'il ne soit pas visible pendant la lecture, vous éteindrez votre lampe après avoir un peu avancé dans l'étude, c'est-à-dire 5 ou 10 minutes, après avoir commencé. Dans l'obscurité, vous percevrez alors la trace lumineuse du phosphène, ce qui vous montrera que vous faites bien du mixage phosphénique, même si le phosphène est peu intense. Dans ce mode de travail, c'est pendant la lecture que se fait le mixage. Puis, après cette observation, qui n'est pas un exercice, vous rallumerez votre lampe pour continuer votre étude. Cette première technique permet une approche douce du principe que nous allons exposer dans la suite du cours et que le docteur Lefebure a appelé « mixage phosphénique ». Désormais, pour étudier, vous conserverez systématiquement cette disposition d'éclairage, quelles que soient les matières, afin de bénéficier en permanence des effets du phosphène. Nous améliorerons plus tard cette technique de façon à accélérer les processus phosphéniques. Entraînez-vous quelque temps avec ce mode de travail. Vous reprendrez un peu plus tard l'écoute de ce cours pour passer au second niveau.
Vous savez maintenant comment augmenter la mémoire, l'attention et la compréhension. En général, les étudiants s'aperçoivent que, par cette simple technique, l'assimilation est déjà plus rapide qu'ordinairement. Nous allons à présent approfondir la pratique du mixage phosphénique par la technique de projection du phosphène.
Installez votre lampe à phosphène de façon à pouvoir facilement l'allumer et la fixer sans avoir à vous déplacer de votre table de travail. Placez-la entre 1,50 m et 2 m de distance. Et arrangez-vous pour n'avoir qu'à lever la tête ou tourner les yeux pour bien voir la lampe. Ne la placez pas trop près de vous, à cause de la chaleur qui risquerait de fatiguer les yeux. Selon la disposition de votre pièce, placez la lampe devant votre bureau ou un peu sur le côté. Orientez-la sans l'allumer pour le moment, de manière à pouvoir fixer directement l'ampoule. Installez-vous à votre table de travail et préparez un livre ouvert sur votre bureau. Ne vous mettez pas dans l'obscurité. Laissez votre pièce éclairée normalement, mais laissez votre lampe de bureau éteinte. Enfin, conservez la télécommande à portée de votre main. Pour ce travail, l'idéal est d'avoir 2 lampes. Une devant vous pour faire votre phosphène, vous l'éteindrez une fois celui-ci formé, et une lampe de bureau qui éclairera votre livre. Pour cette expérience, vous laisserez votre lampe de bureau éteinte. Pour effectuer ces quelques préparatifs, arrêtez maintenant votre magnétophone. Vous êtes prêt? Alors allumez maintenant votre lampe à phosphène et fixez-la durant environ 30 secondes jusqu'à percevoir la coloration bleutée. Laissez tourner votre magnétophone. N'oubliez pas de garder les yeux fixés au centre de la lampe, sans bouger les yeux. Vous pouvez scier autant que vous le voulez. Observez la lampe comme vous regarderiez n'importe quel autre objet. Vous devez maintenant percevoir la teinte bleue qui recouvre progressivement la lampe. Vous pouvez maintenant éteindre votre lampe. Votre lampe étant éteinte, regardez votre livre et commencez à lire le texte. Qu'observez-vous? Vous rencontrez sans doute une difficulté à lire votre texte. Vous observerez en effet que dans les premières secondes, le phosphène gêne la lecture par sa forte luminosité. Il masque les mots du texte. Votre feuille de papier prend une teinte qui est fonction de la phase du phosphène. Votre feuille peut vous paraître jaune ou rosée ou bleutée. Au bout de quelque temps, le phosphène commence à s'atténuer et vous pourrez certainement lire tout à fait normalement malgré la présence du phosphène.
Pour faire disparaître la gêne provoquée dans les toutes premières secondes par la forte intensité du phosphène, il suffira d'éclairer votre feuille à l'aide de la lampe de bureau, ce qui atténuera le phosphène. Le fait d'estomper ainsi le phosphène ne retire rien à la stimulation mentale qu'il apporte, car son énergie est toujours présente et ses propriétés restent les mêmes. De plus, on continue à bénéficier des phosphènes obtenus par réflexion de la lumière sur les pages du livre. L'importante stimulation mentale obtenue par la réflexion de la lumière justifie que l'on ajoute un éclairage sur le texte. On associe donc efficacement ces deux techniques qui font appel à des catégories de phosphènes différentes et par conséquent augmentent l'énergie dégagée. Les résultats en sont donc améliorés d'autant. Sur la face B, nous allons continuer les exercices d'apprentissage de lecture sous phosphène.
Pour ne pas être gêné par le phosphène, nous pratiquerons désormais de la manière suivante. Tout d'abord, pour étudier, vous laisserez votre lampe de bureau allumée, comme vous en avez maintenant l'habitude. Le réflecteur orienté de telle sorte qu'il éclaire votre étude sans vous éblouir. Pour lire, vous ne serez donc pas gêné par votre lampe de bureau. D'autre part, vous pourrez fixer facilement votre lampe à phosphène, placée entre 1,50 m à 2 m, en face de vous ou sur le côté, que vous pourrez allumer et éteindre à volonté pour refaire un phosphène. Ainsi, vous bénéficierez des deux catégories de phosphène que nous avons étudiées. D'une part, le phosphène entretenu par l'éclairage permanent du texte, et d'autre part, le phosphène que vous formerez régulièrement au cours de votre étude. Nous allons refaire une deuxième fois cette expérience en allumant cette fois la lampe de bureau, une fois le phosphène obtenu. Vous êtes prêt? Alors, allumez maintenant votre lampe à phosphène et fixez-la, sans tension, jusqu'à percevoir la coloration bleutée. Laissez tourner votre magnétophone. Observez la lampe comme vous regarderiez n'importe quel autre objet. Vous devez maintenant percevoir la teinte bleutée qui recouvre progressivement la lampe. Vous pouvez maintenant éteindre votre lampe. Votre lampe de bureau n'étant toujours pas allumée, regardez votre livre et commencez à lire le texte. Comme nous l'avons observé durant la première expérience, le phosphène gêne la lecture par sa forte luminosité. allumez maintenant votre lampe de bureau. Vous remarquez que celle-ci estompe le phosphène et vous permet de lire facilement votre texte dès les premiers instants. Vous referez un phosphène chaque fois que vous en éprouverez le besoin, soit environ, au plus tard, toutes les 5 minutes. Continuez ainsi votre étude. Arrêtez maintenant votre magnétophone et, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer un petit moment à étudier de cette façon. Nous nous retrouverons dans un petit moment.
Temps de pratique et durée des séances. Il n'y a pas de limite au nombre de phosphènes que l'on peut faire au cours d'une séance de travail. Beaucoup d'étudiants pratiquent durant plusieurs heures d'affilée sans la moindre fatigue, à raison d'une fixation toutes les 5 ou 10 minutes, par exemple. Pour un enfant, il suffira qu'il fasse tous ses devoirs et apprenne ses leçons sous phosphène pour que les résultats scolaires s'améliorent rapidement. Les étudiants et les adultes étudient souvent plusieurs heures de suite. Du fait de l'importance des programmes, il leur suffit d'associer les phosphènes à l'étude, ce qui permet de gagner du temps et d'accumuler une énergie considérable dans la pensée et dans le système nerveux. On fera donc systématiquement autant de phosphènes que possible durant l'étude. Au cours de longues séances, il se peut que vous ressentiez, au bout d'un moment, une saturation et que vous n'ayez plus envie de fixer la lampe. Dans ce cas, il suffit de cesser de faire des phosphènes et de continuer à étudier comme d'habitude. Puisqu'il y accumule d'énergie phosphénique dans la pensée, vous continuerez à bénéficier des bienfaits des phosphènes entre les séances. En effet, on s'aperçoit très vite que les enfants qui étudient régulièrement avec les phosphènes ont, dans les autres activités de la vie courante, une capacité d'attention bien plus importante que d'habitude. Ils sont moins agités et plus attentifs en classe. Certains vont même jusqu'à ne plus se laisser influencer par leurs camarades et refusent de chahuter afin d'écouter le cours. Les étudiants constatent qu'ils assimilent plus vite durant les cours et que la compréhension est plus rapide. Ainsi, en dehors de la pratique, toutes les activités de la vie bénéficient des séances de phosphène.
Il existe des temps d'incubation avant de ressentir les effets du mixage sur la pensée. Il arrive en effet que l'on ne perçoive pas tout de suite la différence entre une pensée mêlée au phosphène et une pensée sans phosphène. Cependant, on se rend souvent compte, après coup, que la pensée mixée dans le phosphène revient spontanément à l'esprit avec une plus grande intensité et une plus grande présence. Parmi les périodes d'incubation, il y a tout d'abord le cycle de 3/4 d'heure, pour lequel le maximum d'effet se fait sentir vers le 3e quart d'heure. Puis, les effets semblent cesser brusquement. C'est un cycle très important qui régit l'ensemble de l'activité cérébrale et qui explique qu'à l'école, les cours durent 50 minutes et non une heure. On peut donc faire, au début, des séances de 3/4 d'heure afin de bénéficier du maximum d'activité cérébrale avec l'association des phosphènes, ce qui favorise la diffusion de l'énergie produite dans le cerveau par la lumière et accélère les processus d'adaptation. Ensuite, les séances d'études avec les phosphènes pourront durer plus longtemps sans difficulté. Certaines personnes ne ressentent l'effet du mixage que 3 jours après le début de la pratique. Il faut donc persévérer en continuant à travailler avec les phosphènes jusqu'à ce que l'on ressente leurs effets sur la pensée. On constate alors que les résultats se font aussi sentir dans la vie quotidienne, aussi bien dans les études que dans les autres domaines. On s'aperçoit en effet que lorsque l'on a besoin de se souvenir d'une information, elle revient très facilement à l'esprit avec une très grande netteté. Le temps d'incubation peut parfois être plus long. C'est pourquoi il est important d'encourager les enfants sur une durée d'un mois à raison d'un quart d'heure le matin et d'un quart d'heure le soir, afin que les connexions neurologiques se fortifient. Cette période d'un mois se retrouve dans toutes les réactions physiques, comme par exemple une nouvelle activité sportive. Pour encourager l'enfant, les parents doivent lui faire faire quotidiennement une séance de phosphène. Un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, jusqu'à ce qu'il constate lui-même qu'il apprend beaucoup plus facilement. À partir de ce moment, l'enfant aura plaisir à faire des phosphènes, car il aura compris ce qu'ils apportent. Mais tant qu'il n'aura pas fait cette constatation, il ne comprendra pas le sens de ce travail. Il faudra donc le faire travailler régulièrement avec les phosphènes. En général, l'enfant se rend rapidement compte que les phosphènes l'aident à apprendre ses leçons. Les parents ont même souvent la surprise d'entendre l'enfant demander s'il peut apprendre ses leçons avec la lampe.
Vous allez maintenant pouvoir installer correctement et définitivement votre plan de travail et votre lampe à phosphène. Cette dernière se trouvant entre 1,50 m et 2 m face à votre bureau ou sur le côté. Vous travaillerez désormais de cette façon pour vos études, le texte étant bien éclairé, comme vous en avez maintenant l'habitude. Mais vous referez un phosphène environ toutes les 5 minutes. Entraînez-vous quelque temps, vous reprendrez l'audition de cet enregistrement un peu plus tard.
Si vous avez travaillé régulièrement avec les phosphènes, vous possédez maintenant les bases du mixage phosphénique. Grâce à lui, vous allez pouvoir mieux assimiler des données plus compliquées. Maintenant, nous allons étudier l'organisation de l'étude avec le mixage. Nous avons vu, dans la dernière application, qu'il fallait refaire un phosphène environ toutes les 5 minutes. Maintenant que vous avez une certaine expérience dans cette pratique, nous allons affiner cette technique. Précisons à quel moment il faut refaire un phosphène, en fonction de vos besoins réels et selon le degré de difficulté de l'étude. Considérons deux formes d'études. L'étude facile, à savoir l'étude qui ne vous pose pas de problème particulier dans l'apprentissage, et l'étude difficile, soit parce que le sujet ne vous motive pas, soit parce qu'il vous demande une extrême attention. Prenons le premier cas, l'étude pour laquelle vous ne rencontrez pas de difficultés majeures. Vous observerez que dans ce cas, et bien que le sujet puisse vous passionner, vous avez, de temps à autre, des idées parasites qui viennent perturber votre apprentissage. Lorsque vous prenez conscience de ces petits moments, vous en profiterez pour refaire un phosphène. Et là, afin de ne pas perdre de temps et pour améliorer votre attention en profitant du mixage phosphénique, vous repenserez à ce que vous avez déjà étudié précédemment, et cela dès le début de la fixation. Si par contre, vous vous sentez complètement absorbé par le sujet d'étude, vous n'avez pas besoin de refaire un phosphène immédiatement. dans le cas d'une étude difficile, il est absolument nécessaire de refaire des phosphènes fréquemment. En général, et quelle que soit l'étude, il est bon de toute façon de baigner littéralement dans la lumière et d'en absorber le plus possible par courte fixation. Comprenez bien que dans cette forme de travail, la fréquence des phosphènes est proportionnelle à la difficulté d'apprentissage. En résumé, si vous faites travailler votre enfant, il faudra, après l'avoir habitué à lire et écrire sur un plan de travail bien éclairé, lui faire apprendre ses leçons avec les phosphènes. Vous lui apprendrez comment fixer la lampe et l'éteindre au moment de la phase bleutée. Pour utiliser ce mode de mixage, il n'aura pas à se préoccuper du phosphène. Il est par contre nécessaire qu'il ait déjà observé le phosphène durant plusieurs séances, afin qu'il s'habitue à la présence des couleurs et que son attention ne soit pas portée sur le phosphène lorsqu'il apprendra une leçon.
Nous allons maintenant étudier les différents modes de mixage. Le mixage consiste donc à mêler une pensée au phosphène. Dans le premier mode que nous avons étudié, il s'agissait d'avoir une pensée à l'esprit pendant la présence du phosphène, sans porter particulièrement son attention sur lui, et de laisser la pensée évoluer de façon tout à fait spontanée, sans chercher à la diriger. Étudions à présent un second mode de mixage. Celui-ci va consister à se représenter l'image mentale sur la surface même du phosphène. Comme celui-ci paraît assez petit, il va falloir miniaturiser la pensée à l'intérieur du phosphène. Pour cela, vous reprendrez le souvenir d'un objet que vous avez chez vous. Le plus simple sera d'imaginer l'objet comme si on le voyait au loin, mais en le localisant à l'intérieur du phosphène. Nous allons faire maintenant cette expérience de la miniaturisation de la pensée à l'intérieur du phosphène. Installez-vous face à votre lampe. Mettez le bandeau sur votre front. Actionnez votre télécommande. Pendant que vous fixez la lampe, vous pouvez déjà penser au souvenir de l'objet. Éteignez maintenant votre lampe. Mettez votre bandeau. Continuez à penser à l'objet en vous efforçant de le localiser à l'intérieur du phosphène. Cela peut vous paraître difficile d'imaginer cet objet à l'intérieur du phosphène. Dans ce cas, imaginez qu'il se trouve à l'extérieur du phosphène, derrière celui-ci, comme si vous regardiez au travers du phosphène comme à travers un verre coloré. Miniaturisez bien cet objet. Fin de l'expérience.
Nous allons maintenant appliquer cette technique. Considérons une carte de géographie. Après avoir fait un phosphène, l'enfant va examiner longuement une partie du contour de la carte en éclairant la page de son livre à l'aide de la lampe de bureau. Puis, il va refaire un phosphène en pensant à cette première partie et va essayer de la dessiner. Dans un nouveau phosphène, il repensera cette partie de la carte et recommencera le dessin, toujours sous phosphène. Autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'il connaisse parfaitement ce premier contour. Puis, il passera de la même manière à la partie suivante de la carte, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il connaisse bien l'ensemble des côtes et des frontières du pays à étudier. Nous avons déjà vu que le cerveau analyse les images mentales de façon tout d'abord parcellaire. En découpant le thème de l'étude en plusieurs parties, nous respectons le fonctionnement cérébral et le phosphène accroît l'intensité de la pensée, donc la capacité d'attention et par conséquent la mémorisation. Pour étudier l'emplacement des fleuves, il pratiquera de la même manière en se servant des sinusoïdes de la côte comme point de repère. Il observera donc le tracé d'un ou deux fleuves sur un premier tronçon de la carte. Et comme pour le contour, il pourra déjà les dessiner pour faire travailler la mémoire musculaire et visuelle. Puis, il repensera à ses fleuves pendant la fixation et refera le dessin des fleuves après extinction de la lampe. Il fera de même avec les autres fleuves. La façon de travailler sera exactement la même pour les montagnes, les forêts, les lacs et les villes. Prenons maintenant le cas d'un étudiant en médecine qui souhaiterait retenir une planche anatomique. Il cherchera à apprendre les différents éléments de la planche, tout d'abord en les lisant sous phosphène, comme nous l'avons vu jusqu'à présent. Puis, il prendra le premier élément difficile et fixera la lampe en y repensant durant une période de 2 à 30 secondes, avant de passer à l'élément suivant. Après avoir étudié ce second élément, il fixera à nouveau la lampe en y repensant de la même façon, avant de passer au troisième élément, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les éléments de la planche aient été passés en revue. Le travail est évidemment le même, quelle que soit l'étude. Formule, tableau, date, vocabulaire d'une langue étrangère, etc.
Étudions un troisième mode de mixage. Il est surtout employé par les personnes qui ont des difficultés à se représenter la pensée miniaturisée dans le phosphène, mais pas exclusivement, car il est facile à réaliser et permet de très bons échanges entre la pensée et le phosphène. Ce mode consiste à se représenter le souvenir comme s'il était localisé derrière le phosphène. Mais ici, la représentation mentale conserve sa taille normale. Il n'est donc pas utile de la miniaturiser. Dès le début de la fixation, vous reprendrez le même objet que vous imaginerez derrière la lampe. Après coloration et extinction de la lampe, vous continuerez à vous représenter l'objet placé derrière le phosphène, mais sans effort soutenu pour cela. Puis, comme précédemment, vous observerez les transformations spontanées de la pensée, ainsi que la qualité de la représentation mentale. Lorsque la pensée évolue spontanément, ne cherchez plus à la maintenir derrière le phosphène, mais laissez-vous porter par votre réflexion. Au début de la troisième cassette, nous allons effectuer ce troisième mode de mixage.